Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants relais santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti!
Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Bien-être étudiant en R. Aujourd'hui, nous sommes trois autour de cette table. Je m'appelle Tatiana, je suis étudiante en Master 1 Économie internationale à l'Université de Bordeaux et je suis étudiante relais santé du pôle bien-être à l'espace santé étudiant. Cette fois-ci, je suis accompagnée d'une collègue que vous devez déjà pouvoir reconnaître rien que par sa voix, Lisa. Bonjour Lisa.
Hello Tatiana, très contente de te retrouver pour ce nouveau podcast. Tu vas bien?
Ben écoute, ça va très bien. Je suis contente qu'on puisse retrouver pour notre cinquième podcast. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on va parler des relations toxiques.
Et oui, on est bien conscient que c'est un thème qui peut être difficile à aborder, mais il faut en parler pour pouvoir mettre en place les stratégies nécessaires pour se protéger et pour éviter ou au moins réduire notre niveau de souffrance face à ces situations. En plus, c'est un gros sujet parce que parler de relations toxiques, c'est parler de la confiance en soi ou encore de l'estime de soi qui impacte notre santé mentale.
Et pour la petite histoire, quand on a commencé à s'imaginer les thèmes dont on voulait parler dans ces podcasts, l'équipe bien-être, nous sommes réunis pour faire une après-midi de travail et échanger sur nos différentes idées. Et en parlant de tout ça, on s'est rendu compte qu'on avait tous eu des relations toxiques dans plusieurs domaines de notre vie. Et ces relations toxiques ont largement impacté nos études et notre santé mentale, d'où ces podcasts.
Oui, et ce qui est très important aussi, c'est le fait que parfois, des situations désagréables pour nous avec des collègues de travail ou des personnes de notre famille, ainsi que dans notre couple, peuvent venir d'une relation toxique. Mais Tatiana, au fond, comment expliquer ce que c'est une relation toxique?
Alors, ce qu'il faut comprendre avant de parler des relations toxiques, c'est que les relations sociales sont assez simples. Quand tout se passe bien entre deux personnes, les échanges se font de manière assez naturelle et sans se poser trop de questions. Parfois, on est d'accord, parfois on est en désaccord, mais si la relation avec autrui est saine, il y aura du respect et de l'écoute. N'est-ce pas, Lisa?
Exactement. En revanche, quand on se retrouve dans une relation toxique, on réfléchit constamment à ce qu'on doit ou on ne doit pas dire, on se sent en tension et ça nous prend énormément d'énergie.
Donc, une relation toxique, c'est une relation qui prendra trop de place dans notre vie et où en plus, on ne peut pas s'exprimer librement, où on se sent en tension constante.
On va aller plus loin dans ces explications, mais tout de suite, on accueille notre invitée du jour, Patricia Martin. Bonjour Patricia.
Bonjour Lisa, bonjour Tatiana.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous faire un petit retour sur cette brève définition des relations toxiques?
Oui, alors donc Patricia Martin est psychologue à l'espace santé étudiant de l'Université de Bordeaux. J'ai fait des recherches juste avant de venir pour revérifier certaines choses. Il n'y a pas beaucoup d'études, en fait, actuellement sur ce qu'on appellerait, ce qui est un peu à la mode. Et puis, quand on fait une recherche Google, actuellement, on trouve surtout des définitions dans Marie-Claire, Elle, les journaux féminins. Donc, bon, ça fait un peu une alerte sur le fait que ce terme est assez à la mode, mais au fond, désigne des choses que vous avez commencé à définir. Je crois que déjà, il faut faire la différence entre relations toxiques et personnes toxiques. Parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup dans la mode, les pervers narcissiques, des choses comme ça, qu'on voit partout. Tout le monde est pervers narcissique, vraiment. Donc les relations, effectivement, toxiques, c'est bien une relation. C'est bien quelque chose d'interpersonnel et qui s'instaure entre deux personnes. Mais ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'il y a deux personnes. Et que, bien entendu, il peut y avoir... C'est une relation qui s'instaure comme ça. C'est-à-dire que si je me sens en tension parce que je n'arrive pas à dire des choses que j'ai envie de dire, peut-être que c'est lié à l'autre personne et l'interaction, mais c'est lié aussi au fait que moi, peut-être, je n'arrive pas à dire les choses. Et que bien sûr, c'est deux individus, d'accord, qui instaurent une relation. Même si l'une peut être plus à un moment donné ou moins, bon bref. Mais en tout cas, c'est vraiment cette dynamique qui est intéressante à repérer. Tout ça pour ne pas non plus mettre l'accent uniquement sur de la victimisation, c'est-à-dire je suis victime des relations toxiques. Voilà, juste...
On a un rôle à jouer là-dessus.
Bah, en tout cas, comprendre qu'est-ce qui se passe, nous, qu'est-ce qu'on instaure aussi dans cette relation-là. Au fond, est-ce que j'ai besoin à ce point-là de la supporter ? Jusqu'où ?
Ouais, exactement. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que souvent, le degré de souffrance de l'individu qui est dans une relation toxique, il varie selon la personnalité, mais aussi selon que cette relation soit indispensable ou non. Ça peut être la relation avec nos parents ou une relation moins importante, comme avec un voisin ou un collègue.
Oui, la relation toxique peut apparaître dans des différents domaines de la vie. Dans les cadres de la famille, par exemple, on a des situations où les parents, en voulant prendre soin de leur enfant, peuvent créer des relations toxiques. Ces relations empêchent la prise de décision de l'enfant et on comprend vite que c'est toxique quand cela s'étale dans le temps, jusqu'à l'âge adulte, et dans des domaines de la vie qui font partie de la vie intime de l'individu, comme les décisions de couple, de travail, la façon de s'habiller. Dans cet exemple, l'enfant qui se voit dans une situation comme celle-ci aura du mal à se rendre compte qu'il a le contrôle de sa vie, et que quand l'être humain sent qu'il ne peut rien faire dans sa vie pour changer les choses, peut tomber dans la dépression.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on n'incrimine absolument pas les parents. Ils ne sont pas forcément malveillants et les relations toxiques parfois viennent de bonnes intentions. Celles-ci peuvent se dégrader petit à petit jusqu'à mener à l'absence totale de contrôle de l'individu sur sa vie, comme l'a dit Tatiana, qui peut être complètement accaparée par un parent. Ce contrôle intense de la part d'autrui peut mener jusqu'à une dépression de l'individu qui dépend entièrement d'un parent. Patricia, est-ce qu'au final, la perte de contrôle sur sa vie, c'est pas une des conséquences premières d'une relation toxique ?
Je reprendrai votre exemple, c'est partir d'un enfant dans sa famille. On a, en tant qu'humain, probablement mammifère et primate, mais en tout cas humain, des besoins de base. Ces besoins de base, je vais en donner quelques-uns, mais c'est être aimé, sécurisé, c'est être écouté, reconnu aussi. Et puis, c'est aussi de pouvoir développer son autonomie. Donc, dans l'exemple que vous donnez, effectivement, si des parents sont surprotecteurs parce qu'ils sont très inquiets, parce que pour plein de raisons de leur propre vie, en font trop, et puis empêchent l'enfant, finalement, de développer ses compétences, progressivement, il ne va pas apprendre. Et ça peut effectivement devenir un vrai problème pour lui à un moment donné, parce que le jour où il se retrouve à grandir et à être... obligé d'être autonome, à avoir des difficultés. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est des relations toxiques ? L'enfant, il ne va pas s'en rendre compte. Et les parents non plus, la plupart du temps. Vous voyez, c'est là que c'est compliqué. Parce qu'en fait, finalement, tout le monde peut être toxique à un moment donné.
Oui, je pense que c'est ça le point qu'on voulait remarquer. Parfois, ça part mais des intentions très bonnes. Enfin, c'est juste, on veut le meilleur pour la personne qu'on a à côté. On le fait de conseils, on essaye de le mener par le bon chemin. Et parfois, ça devient toxique. Parfois, ça devient invasif dans la vie de l'autre. On l'a déjà dit, mais c'est très important de savoir que les relations toxiques, on le retrouve même où on ne s'imagine pas. C'est les cas de l'amitié, parce que parfois, on pourrait penser, on choisit nos amis. Donc, si on se retrouve dans une relation toxique, c'est bien de notre faute. Mais les choses, parfois, elles ne sont pas si claires. Parfois, des petits commentaires qui passent inaperçus viendront s'ajouter à la liste de nos complexes et petit à petit, sans se rendre compte, peuvent nous faire mal, nous faire perdre de la confiance et de l'estime de soi. Et c'est justement à ces sujets-là que nous avons recueilli un témoignage qui nous aidera un petit peu à mieux comprendre tout cela.
Quand j'étais petit, du coup, j'étais avec une personne à peu près du début collège jusqu'à la fin du lycée. Une personne qui était en fait un ennemi par défaut. Et il faut savoir que cette personne-là avait un caractère assez particulier, c'est-à-dire que, bon, c'est sûr, c'est grâce à lui que je découvrais, en fait, par exemple, des mèmes sur Internet ou des trucs sur Internet. En fait, en gros, c'est lui qui m'a fait tout apprendre là-dessus. Mais d'un autre côté, en fait, il avait toujours ce ton dédaigneux, ce ton à vouloir me rabaisser constamment, notamment lorsque j'ignorais certaines choses. Et plus ça allait, plus ça avançait dans l'âge, et plus il continuait à faire ça. Et c'était assez éprouvant pour moi, ce qui est si tôt que finalement, j'ai décidé de ne plus lui parler. Ça s'est fait assez naturellement, même lui, il ne cherchait plus vraiment à me parler, donc voilà.
Patricia, quel est ton ressenti à l'égard de ce témoignage ?
Je ne sais pas si c'est un ressenti ou si c'est une analyse.
Votre analyse.
Non, mais ce qu'il raconte, c'est des choses qu'on constate souvent dans nos vies, hein, c'est de classique. On peut se poser la question de est-ce que le jeune homme qui... L'autre, enfin l'ami, l'ami par défaut, est-ce que c'était une manière pour lui de se sécuriser en se sentant beaucoup plus fort, beaucoup plus... En rabaissant, vous voyez, en ayant un comportement, en fait, de rabaissement par rapport à lui-même, ses propres inquiétudes ou ses propres failles, parce qu'il se raccrochait aussi à cet autre garçon. Vous voyez, enfin, là, c'est là qu'on voit, il y a une danse. Celui qui témoigne exprime que lui, ça l'a fait souffrir, que c'était douloureux d'entendre ses critiques. Et que il a mis fin à ça en fait, hein, du coup. Mais l'autre, on peut se poser la question de cette amitié. En fait, elle sert aux deux à un moment, vous voyez. Et puis, elle n'est pas forcément. C'est pas bisounours. C'est pas forcément. Je t'aime comme ça. C'est. On fait un bout de chemin ensemble. Et puis, tu me sers parce que tu m'apprends des choses. Puis parce que je suis tout seul. Mais et l'autre, en fait, aussi. Et puis, mais peut-être qu'il vient aussi combler des failles en rabaissant l'autre parce qu'il se sent plus sécure ou plus... Voilà, on peut se poser toutes ces questions, ça ne veut pas dire que c'est ça. Hein.
C'est souvent des relations qui ont l'air de rien, comme on l'a vu dans ce témoignage, une amitié comme une autre, mais elles sont quand même très importantes pour nous, on voit comment ça affecte l'étudiant, et parce qu'en fait, ça nous prend énormément de place dans notre vie, ce qui nous marque et impacte notre santé physique et mentale. C'est vrai que ça impacte déjà notre santé mentale parce qu'on a une augmentation du stress qui devient chronique et qui agit de façon négative sur l'état émotionnel, comportemental et sur la cognition. Ça peut conduire à la dépression, à l'agressivité constante, à la fatigue émotionnelle très souvent, mais aussi à des difficultés de concentration, des troubles de mémoire, de l'hyperémotivité ou encore même des troubles du sommeil. Ça a également un impact sur notre santé physique, puisque comme ça draine toute notre énergie, on arrive à un état d'épuisement, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, des taux de cholestérol élevés, de diabète ou encore d'une baisse des défenses immunitaires.
La relation toxique qui peut s'installer, c'est quand même des signaux faibles souvent. Bien sûr, ça peut aller jusqu'à des choses très graves et là qui sont moins faibles, mais c'est du petit grignotage quotidien avec des petites phrases, avec du manque de respect, des petites critiques, du dénigrement ou de la manipulation ou des sarcasmes avec l'humour. Mm-hmm. Oh, mais oui, mais là, t'as pas tellement le sens de l'humour, hein, tu devrais le prendre bien. Et puis des tentatives de contrôle de l'autre aussi. Enfin, tous ces aspects-là, s'ils sont même faibles, mais récurrents, sur de la durée, c'est là que ça commence à vraiment prendre beaucoup d'espace et à faire douter au bout d'un moment et puis à attaquer l'image de soi, la confiance en soi et ainsi de suite.
Mmh. On va passer à la suite. On va essayer de répondre à la question que tout le monde est en train de se poser chez soi. Comment reconnaître les relations toxiques ? Car, comme nous avons pu le voir, elles peuvent passer inaperçues, s'installer dans notre vie sans qu'on ait le temps de réagir. On a décidé de retenir trois signaux. Donc le premier, et c'est le plus simple à repérer, c'est de repérer cette tension, voire l'anxiété en présence d'une personne. Il faut se faire confiance. Si on se sent comme ça après avoir reçu un commentaire, c'est peut-être parce que ça vient pas de la bienveillance. Ensuite, dans les relations toxiques, souvent on retrouve un schéma de dépendance, c'est-à-dire qu'on sent avoir besoin de cette personne. On se sent plus petit que cette personne et quand on s'éloigne, on sent le manque. Car cette relation a pris trop de place dans notre vie et jusqu'à même devenir, dans certains cas, les centres de notre vie. Et finalement, on peut repérer des émotions très intenses, autant pour le positif que pour le négatif. L'amour pour cette personne peut aller jusqu'à la limite de tout faire pour cette personne, dans les cas les plus extrêmes. Et quand on se retrouve dans une dispute avec celle-ci, ça peut devenir violent assez rapidement, que ce soit de la violence mentale ou physique.
Malgré tout, là où on reconnaît le plus souvent des relations toxiques, c'est évidemment au sein des relations amoureuses. À ce propos, nous avons également reçu le témoignage d'une étudiante de l'Université de Bordeaux que l'on va écouter tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans et j'ai vécu une relation toxique au lycée avec mon ex-petite amie quand j'avais 15 ans. Elle m'a déclaré sa flamme un jour et m'a fait comprendre que si c'était pas réciproque, elle allait se suicider. On est restés ensemble 2 mois. 2 mois où elle m'a fait énormément de chantage affectif, elle m'a beaucoup manipulée, elle m'a beaucoup rabaissée. En fait, tout ce qui allait mal dans sa vie, c'était de ma faute. Jusqu'à même les choses qu'elle faisait, elle me les reprochait alors que c'est elle qui les faisait. Donc je trouvais ça super injuste et j'étais assez jeune, donc je pouvais pas me rendre compte qu'elle projetait sur moi en fait ses propres démons. J'ai réussi à la quitter en me disant que même si elle finissait par se suicider, ça serait en aucun cas ma faute. Et elle est restée obsédée par moi pendant 3 ans où elle créait des faux comptes pour m'écrire. Elle a retourné petit à petit tous mes amis contre moi, même ma meilleure amie que je connaissais depuis presque 13 ans. Donc je suis sortie de cette relation très isolée, très seule, plus de confiance en moi et plus de confiance tout court en les autres.
C'est très grave parce qu'avec Pauline, oui, elle était face à quelqu'un qui effectivement était certainement très très mal, mais qui l'a vampirisé quand même.
Oui,
donc c'est vraiment une atteinte. Mmh. Et là, on voit qu'il y a eu vraiment une emprise qui a été tentée. Pauline a réussi à quand même à avoir suffisamment, même très jeune, même sans s'en rendre compte, l'énergie pour mettre de la distance. Mais on voit qu'il y a eu quand même un grignotage autour. Oui, c'est grave, hein, ce type de... Heureusement, ça n'arrive pas très souvent. Hein, heureusement, mais ça arrive.
Pour la préparation de ces podcasts, nous avons entendu parler de l'importance de connaître quel est notre rôle dans la relation toxique. Comment s'est protégé pour arriver à s'en sortir? Patricia, tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les clés pour toi pour sortir de cette relation?
On peut repérer ce qu'on appelle le triangle de Karpman, où dans une relation toxique, en fait, on peut repérer, bon, c'est une manière de modéliser, hein, c'est juste une vision. Là, ce qui se passe dans une relation où on peut tour à tour devenir le bourreau, la victime et le sauveur. Et je prends l'exemple des parents dont vous parliez tout à l'heure, pas forcément dans un couple, mais ça peut être la même chose. Si j'ai tendance à avoir envie d'aider mon compagnon ou ma compagne et de faire les choses à sa place et de faire tout pour lui, je vais me mettre en position de sauveur, de sauveuse. Mais en même temps, je vais l'empêcher de se développer, d'être autonome. Donc lui peut le vivre comme une atteinte à son intégrité. Moi, du coup, il va peut-être me faire la tête ou faire des réflexions. Moi, je vais vivre ça comme une victime, puisque c'est pas juste, puisque moi, je fais tout pour l'autre. D'accord ? Et donc, du coup, je vais peut-être en rajouter. Donc, je me sens attaquée. Enfin, vous voyez ? Et là, on part dans un cycle où les deux protagonistes sont plus très conscients de ce qui se passe. Donc ça, j'allais dire, c'est le système où la relation s'installe de manière toxique. Bah, comment en sortir ? C'est déjà arrivé à repérer, peut-être des fois en se faisant aider pour essayer de poser les choses, parce qu'à deux, c'est pas toujours simple. Face à face, hein, on rentre toujours vite dans la relation toxique. Ou dans la relation où on va se disputer, tout ça. Mais déjà, peut-être un tiers, mais peut-être je vais arrêter de vouloir l'aider à tout prix. Parce qu'en fait, si à chaque fois que je l'aide, il me reproche quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, c'est pas son besoin. Et du coup, ce qui est important, c'est de repérer dans une relation, c'est quoi les besoins, les miens, c'est quoi les besoins de l'autre. Parce que l'autre, il a le droit d'être différent, il a le droit de pas avoir les mêmes besoins. On a le droit d'être en conflit, c'est pas une relation toxique, le conflit. Parce que le conflit, c'est le moment où on va se rendre compte qu'on n'est pas d'accord, hein, oui. Comme tu le disais au début. Donc oui, c'est quoi mes besoins profondément? C'est quoi les besoins de l'autre? J'ai aussi besoin d'empathie par rapport à ça. Et puis peut-être apprendre à le dire. Et puis si vraiment, une fois que j'ai dit mon besoin, les choses qui étaient nécessaires pour moi, pour pas rentrer dans le cycle infernal, là, et que l'autre, ça coince. Là, peut-être, effectivement, une fois, deux fois, trois fois, puis là, vraiment commencer à prendre du recul par rapport à cette relation, justement, si on n'arrive pas à modifier la relation.
Dans l'équipe bien-être, on est conscient que ces relations, elles sont pas simples, que c'est parfois difficile de couper les ponts, de disparaître, surtout quand on a une relation qui dure depuis des années. Donc on avait une question à te poser, c'est comment peut-on aider une personne qui est sous l'emprise d'une relation toxique?
Ah, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué parce que la personne peut pas être engluée là-dedans. Elle va y retourner. Alors il faut avoir beaucoup de patience et ne pas lui en vouloir et se dire que oui, c'est normal, c'est un processus d'emprise peut-être. Et qu'il faut être là et pas la lâcher si vous voyez qu'il peut y avoir une grosse souffrance. Mais être très très patient parce qu'elle va pas forcément avoir la capacité de voir que c'est qu'elle est là-dedans.
Oui, et parfois il y a des situations où on peut pas juste couper les ponts, comme disait Lisa.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une amie de longue date qui a une famille recomposée puisqu'elle a un beau-père. Et en fait, elle n'est pas elle-même dans la relation toxique, mais c'est sa mère avec son beau-père qui est dans une relation toxique assez forte. Ce qui a une telle emprise sur sa mère que maintenant, La mère fait payer un loyer à ses enfants étudiants qui n'ont pas de revenus, qui doivent faire leurs propres courses. Et le beau-père les traite d'une manière très mauvaise pour eux, du fait que maintenant, aujourd'hui, ils doivent vivre ailleurs. Parce que, en fait, ils n'ont pas le choix de vivre parce que cette relation toxique leur est imposée.
Patricia, comment faire quand on est obligé de fréquenter la personne ?
J'aimerais bien avoir la réponse. Hein. J'aimerais bien avoir la réponse toute faite. J'en ai pas. Tout va dépendre des situations parce que parfois on est vraiment obligé. Mais en fait, la question c'est jusqu'où je suis vraiment obligée. Et si cette relation est insupportable, intolérable et vraiment même délétère, je suis pas forcément obligée. C'est en quoi je m'oblige. Mais c'est douloureux quand c'est d'autres membres de la famille dont on est obligé de se séparer. Mais ça peut être une étape, des fois, de vie nécessaire, tout simplement pour se protéger, voire peut-être des fois faire réagir l'autre au bout d'un moment, mais ça peut mettre du temps.
C'est vrai que c'est peut-être le facteur principal, le temps, pour se remettre d'une relation toxique ou pour pouvoir déjà en prendre conscience. Donc en résumé, si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs des signes comme le fait que vous êtes constamment dans la peur de l'autre ou que vous avez une peur permanente de l'abandon, que vous avez peur ou vous êtes maltraité physiquement ou moralement, ou encore que la colère, elle est omniprésente dans la relation et que vous souffrez plus que vous ne profitez de la relation, c'est peut-être que vous êtes dans un schéma de relation toxique, puisque votre comportement n'est plus le même et surtout votre estime de vous a baissé. Donc prenez soin de vous, prenez conscience de l'état de votre relation et surtout parlez à vos proches ou à un professionnel pour vous apporter de l'aide.
Les relations toxiques sont très difficiles à identifier, surtout dans les débuts, mais faites-vous confiance. Si vous ressentez de la tension ou de l'anxiété face à quelqu'un, c'est peut-être parce que cette personne n'est pas quelqu'un de bienveillant avec vous. Et donc essayez de mettre des limites pour vous protéger. Si jamais vous êtes dans une relation qui est allée trop loin, l'important sera d'aller vers un professionnel ou d'en parler avec quelqu'un de votre entourage si vous les sentez, pour vous aider à sortir de cette relation.
On arrive à la fin de ce podcast. Merci Patricia de nous avoir rejoints et d'avoir répondu à nos questions. Merci Tatiana de m'avoir accompagnée une nouvelle fois pour un épisode.
Merci à toi.
Et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être étudiant On Air sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Google Podcast pour ne rater aucun épisode. On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace santé étudiant à PESAC sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast.